Chapitre 4. L'habit de fête. 19e dimanche après la Pentecôte. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de fête? Matthieu, chapitre 22, verset 12. Aussitôt après le passage lu aujourd'hui à l'Évangile, saint Matthieu enchaîne son récit à l'épisode des Hérodiens, demandant à Jésus s'il est permis de payer l'impôt à César. Il semble donc à première vue que notre péricope contienne une seule parabole. Cependant, l'évangéliste nous avertit en débutant que Jésus, prenant de nouveau la parole, leur dit en parabole. Ce pluriel n'est pas une faute d'impression. En réalité, nous sommes en présence de trois paraboles distinctes qui ont toutes les trois pour cadre un festin royal. La parabole des invités discourtois, plus développée dans saint Luc, chapitre 14, verset 15, sur laquelle chevauche une autre parabole des invités homicides, apparentée à celle des vignerons meurtriers et annonçant le rejet des magistrats d'Israël dont la ville sera détruite et livrée aux flammes. Enfin, le résidu d'une troisième parabole du vêtement de noces indépendante des deux autres. Cette distinction fait disparaître un certain nombre d'anomalies franchement déconcertantes s'il ne s'agissait dans ce passage que d'une même histoire. Le roi fait brûler la ville des invités. N'y habiterait-il pas? Après l'incendie, le festin est toujours prêt. Où aura-t-il lieu puisque la ville n'existe plus? Que reste-t-il des carrefours où il dépêche ses serviteurs, bien que ceux-ci viennent d'être tués? Quant aux pauvres, ramassés sur les routes pour remplacer les premiers invités, possède-t-il un habit de cérémonie? Même en ce cas, il n'aurait pas eu le temps de passer chez eux pour se changer, puisque d'après saint Luc, les serviteurs ont reçu l'ordre de les amener sur le champ et de les forcer à entrer tels quels dans la salle du repas. Tout devient très clair en revanche dès qu'on sépare les trois paraboles, dont chacune possède son enseignement propre. Considérons la dernière, celle de l'habit de fête, qui nous place dans les perspectives de la parousie. Quand le Christ reviendra célébrer ses noces éternelles avec l'humanité rachetée, il ne suffira pas que nous ayons fait partie ici-bas de son Église pour nous asseoir au festin du ciel. N'y eut-il dans toute l'Église qu'un seul homme à ne pas avoir satisfait aux conditions d'admission, il sera impitoyablement exclu. Le récit parabolique peut être reconstitué ainsi. Un roi a convié les notables de sa ville au repas des noces de son fils. Il allait de soi que tous se rendissent à l'invitation royale et y vinssent en habit de cérémonie. Tous, en effet, ont revêtu leur tenue de gala, la robe nuptiale, sauf un seul qui n'a pas eu le tact de donner au souverain cette marque de politesse élémentaire. Avec un sans-gêne incroyable, ce malappris est venu au festin dans son costume de tous les jours. Le roi, en pénétrant dans la salle étincelante de lumière, aperçut cet homme qui ne portait pas l'habit de fête. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de fête ?» Mais l'autre resta bouche close. Le coupable ne balbutie même pas une excuse. Il ne saurait en alléguer aucune. Alors le roi dit aux servants, et non plus aux serviteurs des paraboles précédentes, « Liez-lui pieds et mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » La formule « pleurs et grincements de dents » est citée 6 fois dans saint Matthieu, sauf en un passage de saint Luc, chapitre 13, verset 28, on ne la trouve pas dans les autres évangélistes. Elle fait partie en effet des images de la théorie juive familière aux seuls lecteurs palestiniens. Après leur mort, les justes entraient dans la lumière de Dieu, tandis que les pécheurs bannis de cette région lumineuse se désolaient dans les ténèbres. Les pleurs figurent leur douleur, les grincements de dents leur dépit et leur désespoir. C'est le châtiment suprême. pour que le convive qui s'est présenté sans un habit de fête y ait été condamné, sa faute devrait être particulièrement grave. En quoi a-t-elle consisté ? La robe nuptiale pourrait faire penser à l'innocence de la robe baptismale perdue par le chrétien qui a volontairement rejeté l'état de grâce. Cette interprétation ne répond pas aux données de la parabole. Le coupable qui s'est retranché du corps du Christ serait mieux représenté par l'invité qui refuse de s'asseoir à la table royale. Notre homme, au contraire, est bel et bien venu avec le désir de prendre part au festin et la certitude d'y être admis. La parabole met en relief la surprise du malheureux qui ne s'attendait point à être chassé. Il n'est pas douteux que notre Seigneur ait tenu à nous prémunir contre une illusion que nous aurions à déplorer au terme de notre vie. La leçon du maître s'adresse sans aucun doute aux chrétiens qui se croient fidèles parce qu'ils viennent célébrer tous les dimanches le repas eucharistique. Regardons-y de plus près. Sensible à l'honneur qui lui a été fait, flatté même du prestige qui lui en revenait, le convive négligent n'a pas refusé l'invitation du roi et il s'est dérangé pour venir. Mais il est venu tel qu'il était. Il n'a fait aucun frais pour son hôte. Il n'a pas eu égard à sa dignité. Il n'a pas su reconnaître la faveur dont il était l'objet. Son souverain le traitait royalement. Lui ne l'a pas traité comme un roi. Qu'il a été de son devoir d'honorer le monarque, de lui marquer sa gratitude, sa fierté et sa joie d'avoir été confié au repas nuptial du jeune prince, autant de considérations qui n'ont pas effleuré l'esprit de cet égoïste. S'il n'y a qu'à joindre les mains pour recevoir, il est là. Quant à donner lui-même quelque chose, ou bien peu de choses, passer un habit de fête, il n'y a pas songé. Il n'avait même pas le sentiment de son inconvenance. Telle est la leçon de la parabole. Dieu nous traite divinement. Rien n'est trop beau pour nous. Il nous élève à la dignité de fils adoptifs. Et dans ce but, il nous envoie son fils qui accepte de mourir pour la rémission de nos péchés. Il nous fait connaître l'évangile. Il nous invite au repas eucharistique, gage et avant-goût du ciel où nous serons les co-héritiers de son fils unique. En vérité, il nous traite comme un Dieu peut et sait le faire. Mais nous, le traitons-nous comme on doit traiter un Dieu ? N'y a-t-il pas des chrétiens qui n'ont pas pour lui les prévenances qu'ils témoignent à leurs amis, ni les attentions dont ils entourent les hommes qui servent leurs intérêts terrestres ? Nous mettons-nous en frais ? Savons-nous seulement nous gêner un peu pour l'honorer, pour lui obéir, pour lui plaire ? Ne pensons-nous pas que nous sommes quittes envers Dieu dès l'instant que nous n'avons pas enfreint la lettre des préceptes ? Tranchons le débat d'un mot. Est-ce pour lui ou pour nous que nous sommes religieux ? Notre Seigneur nous prévient qu'une religion où le culte de soi se substitue au culte de Dieu conduit tout droit à l'exclusion du ciel. La religion est avant tout l'adoration de Dieu. Dès l'introïde de cette messe, la liturgie nous rappelle en quoi consiste la vraie religion. « Le salut du peuple, c'est moi, dit le Seigneur. Écoute, ô mon peuple, mes enseignements. Je me trompe si mes désirs du ciel s'absorbent dans celui de mon propre bonheur, comme si j'y avais droit. Mon salut, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Ce que nous devons admirer dans le ciel avant d'évoquer notre propre félicité, c'est l'incompréhensible amour que Dieu nous porte. C'est la possibilité qui nous sera accordée de le connaître comme il nous connaît, de l'aimer comme il nous aime. Le ciel sera la réalisation de nos désirs actuels d'aimer Dieu. Le Seigneur sera notre salut, si nous savons observer ici-bas le premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. » Et je me tromperais aussi en négligeant le second commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras le prochain comme toi-même. La religion égoïste avilit la merveilleuse doctrine du salut en un misérable sauve-qui-peut. Du moment que j'aurai tiré mon épingle du jeu, le reste ne m'intéresse plus. Le reste qui est le salut du peuple de Dieu. le reste qui est la royauté de Dieu acclamée par l'humanité rachetée, les noces éternelles de Jésus-Christ et de son Église. Au jour de la parousie, le disciple du Christ ne sera sauvé que s'il a aimé ses frères. Pas de salut pour moi si j'ai volontairement omis de soulager l'un des plus petits parmi les frères de Jésus qui était affamé ou sans vêtements ou sans asile. Pas de salut pour moi si je n'ai pas aidé les autres à se sauver, si je ne suis pas allé dans les carrefours et le long des haies ramasser les dénudés, les débiles, les impotents, les aveugles pour les conduire au seuil de la salle du festin. Faites attention au psaume que la liturgie vous fera chanter tout à l'heure pendant la communion. Tu as donné tes commandements, ô Dieu, pour qu'on les observe avec soin. Daigne diriger ma conduite afin que j'obéisse à tes préceptes. Et si je me trompe encore, si marchant dans mon obéissance, je ne donne qu'à regret le strict nécessaire pour être sauvé au plus juste prix, nous devons être toujours contents de Dieu, contents de lui offrir tout ce qu'il nous demande, souffrant seulement de ne pas être capable de lui donner davantage. Nous devons venir à lui en habit de fête. Prêchant sur ce passage de l'Évangile, saint Augustin disait à ses auditeurs, « Cette robe nuptiale, c'est l'amour, et l'amour grandit dans la mesure où l'égoïsme diminue. Vous êtes entrés dans l'Église, vous approchez du repas eucharistique, et cependant, vous n'avez pas encore passé le vêtement en l'honneur de l'époux. Et si c'est vous que vous cherchez et non pas Jésus-Christ ? » Méditons posément ces paroles. Si dans l'exercice de la religion c'est moi que je cherche, je fais fausse route, car au terme, je ne retrouverai que moi, le néant. Au contraire, si nous nous perdons de vue pour ne chercher que Jésus-Christ, nous le trouverons et lui nous sauvera. Si dans notre prière nous ne pensons qu'à lui, lui pensera à nous. Si nous renonçons à notre volonté pour obéir à ses commandements, il nous donnera en bonheur le centuple de ce que nous aurons sacrifié pour lui. Mais notre faiblesse et notre misère nous inquiètent. Raison de plus pour ne chercher que Jésus-Christ. Le sauveur du peuple, c'est moi, dit le Seigneur. Voilà qui doit faire monter à nos lèvres un cri de reconnaissance. Jésus nous met maintenant en état de le rencontrer définitivement. Dieu ne nous accueillera dans la salle du festin que s'il discerne en nous une ressemblance avec son Fils. Et cette ressemblance, c'est Jésus qui l'opère actuellement. La leçon de l'épître de la messe rejoint celle de l'Évangile. « Revêtez, nous est-il dit, l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté véritable. » Le péricope du missel commence au milieu d'une phrase de saint Paul, complétée par ce qui précède dans le texte de l'apôtre Éphésiens, chapitre 4, verset 22. Elle nous éclaire sur l'efficacité du baptême, qu'elle subordonne à notre active correspondance à la grâce. Car si le baptême détruit en nous le péché, il nous faut ensuite dépouiller le vieil homme en résistant avec l'aide de Jésus-Christ aux convoitises trompeuses, c'est-à-dire aux passions et aux erreurs qui corrompent notre nature. Au baptême, l'Esprit-Saint vient habiter en nous, à nous ensuite de renouveler nos pensées et nos désirs pour les harmoniser avec ceux de l'autre divin de notre âme. Le baptême est une seconde naissance. Dieu y fait de nous un homme nouveau, créé à son image. Cet effet surnaturel n'est rien moins qu'une opération magique. Notre coopération est constamment requise et elle consiste en une suite ininterrompue d'efforts pour revertir, plus exactement, l'homme nouveau qui nous rend semblables à Jésus-Christ pour pratiquer la justice et la sainteté véritable. La sainteté qui nous fait rendre à Dieu l'adoration sincère et effective qui lui est due. La justice qui règle nos relations avec nos frères. Et de ces deux vertus, nous trouvons la véritable et parfaite expression dans l'exemple et la doctrine de Jésus. Notre Seigneur est à la fois notre secours et notre modèle. Il nous fait enfants de Dieu et il nous apprend à nous comporter comme des enfants de Dieu. À nos tendances pécheresses, son esprit oppose un plus puissant désir du bien, et sous son impulsion, nous parviendrons à reproduire ses vertus et à vivre comme des hommes nouveaux. Déjà, le baptême nous a insérés dans le corps de Jésus-Christ. Mais le baptême est seulement l'inauguration de notre sainteté. Par l'Eucharistie, la vie du Christ circule en nous. Nous ne sommes baptisés qu'en vue de l'Eucharistie, laquelle maintient notre union avec Dieu et augmente en nous la vie divine du Christ. Dès lors, la petite parabole de la robe nuptiale prend une amplitude que nous ne soupçonnions pas à une première lecture. Notre messe est la répétition et la préparation du festin messianique. Ici, tous les dimanches, le Seigneur tisse patiemment notre habit de fête. D'une semaine à l'autre, il nous purifie davantage. Il nous façonne à son image. Il accroît en nous l'amour qui nous élève peu à peu à sa taille, pourvu, comme le dit saint Augustin, que ce soit lui, lui seul, que nous venions chercher. Seigneur bien-aimé, vous êtes l'auteur de notre félicité. Nous voulons disparaître en vous, disposer de nous comme vous l'entendez. Changez nos pauvres haillons en habits de fête, afin que votre Père, notre Roi, nous admette à son éternel banquet.